Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
C'est comme si j'avais été tué en même temps que Ron et Nicole. Tout le monde voulait que je sois coupable. Je sais que je reverrai Nicole au paradis. On n'aura pas besoin de se parler. Elle sait que je suis innocent.
Bonjour. Le 12 juin 1994, l'ancienne star du football américain O.J. Simpson faisait son entrée dans la chronique criminelle pour ne plus jamais en sortir. Accusé d'un double crime féroce à coups de couteau, celui de son ex-épouse Nicole Brown et d'un serveur de restaurant Ron Goldman, l'histoire va quasiment oublier les noms des victimes pour ne retenir que celui d'O.J. Simpson, suspect évident. De la première heure dont on suit le parcours taché de sang, lancé dans une cavale désespérée dans Los Angeles, filmé en direct par toutes les télés, vedette d'un procès fleuve où tout semble l'accabler, mais au sein duquel les doutes, les interrogations, les coups de théâtre vont gangréner l'accusation. O.J. Simpson est mort le mercredi 10 avril 2024 à l'âge de 74 ans, acquitté au pénal mais coupable lors du procès au civil qui avait suivi. Éternel suspect, car jusqu'au bout, la justice aura eu toute la peine du monde à trancher, laissant ses crimes dans un éternel clair-obscur. Mais si ce n'est O.J., alors qui a tué Nicole Brown et Ron Goldman? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur un feuilleton judiciaire resté sans véritable épilogue. L'affaire O.J. Simpson, à la toute fin du printemps 94, l'ancienne star de football américain va être suspectée d'un double crime au couteau, celui de son ex-femme et d'un employé de restaurant. Dimanche 12 juin 1994, à minuit 9, le patrouilleur de la police de Los Angeles est appelé pour une urgence dans le quartier huppé, calme et résidentiel de Brentwood. Un couple l'attend devant une villa blanche entourée de pelouses. Sukru Botsepe et Bettina Rasmussen habitent tout près. Ils expliquent avoir recueilli un peu plus tôt dans la soirée un chien aux pattes maculées de sang. L'animal les a guidés jusqu'au 875 South Bundy Drive. Ils ne sont pas allés beaucoup plus loin car il y a un corps qui gît à l'entrée du patio. Il y a beaucoup de sang, une rivière de sang. J'ai vu une femme, puis j'ai détourné le regard, explique Bettina Rasmussen. Le policier trouve, recroquevillée sur le sol près de la boîte aux lettres, une femme blonde, robe noire, pieds nus. Elle a été égorgée. À 1m50, repose un homme sur la pelouse, appuyé contre un palmier. Il a reçu 30 coups de couteau. La villa est vide, le salon éclairé par quelques bougies. À l'étage, un petit garçon et une petite fille dorment paisiblement. Les enfants de la victime, Nicole Brown, 35 ans, ex-épouse de l'ancien joueur de football américain O.J. Simpson. L'homme poignardé s'appelle Ron Goldman, 25 ans, serveur dans un restaurant du quartier. Il rapportait à Nicole une paire de lunettes oubliées, aucune arme retrouvée. Près des corps, un gant en cuir taché de sang. 2h10, les détectives Rossi, Furman, Roberts et Vanater inspecte la scène de crime, puis file au domicile d'O.J. Simpson, 6 minutes en voiture. On veut le prévenir du drame. O.J., 46 ans, a divorcé de Nicole Brown 2 ans plus tôt dans des conditions houleuses. L'épouse l'avait accusé de violence. O.J. n'est pas chez lui. Les policiers craignent qu'il ait subi lui aussi un mauvais sort, car des taches de sang sont visibles dans l'habitacle de sa voiture. Une Ford Bronco, visible encore sur le chemin de la maison, les analyses confirmeront qu'il s'agit du sang d'O.J. et de son ex-épouse. Un deuxième gant en cuir est retrouvé par l'inspecteur Mark Furman, un ami acteur qui loge dans le pavillon des invités, dit avoir mangé avec O.J. vers 21h. Puis ensuite, il ne l'a plus vu. L'ex-footballeur n'est pas en fuite. Il a embarqué à minuit sur un vol pour Chicago. Voyage prévu depuis 5 jours. À 6h du matin, les enquêteurs arrivent à le joindre. Il dit qu'il rentre tout de suite. La sœur de Nicole Brown, Denise, est également prévenue de la tragédie. Elle pousse ce cri. Il l'a tué. Il l'a finalement tué. Denise témoignera plus tard que sa sœur lui avait un jour confié, en parlant de son ex-mari, « Il me tuera et il s'en sortira ». Lundi 13 juin au matin, le détective Philippe Vanater, qui 20 ans plus tôt s'était illustré en arrêtant Roman Polanski, attend le retour d'O.J. Simpson chez lui. Un mandat d'arrêt a été délivré. Les indices, notamment du sang dans sa voiture, suffisent à faire de lui un suspect. Qui plus est, impossible à ce stade de savoir où Oji se trouvait entre 21h30 et 23h, le créneau du crime. Son chauffeur, qui devait le conduire à l'aéroport, s'est pointé à 22h30, mais son patron n'était pas là. À 22h54, il a aperçu la silhouette d'un homme athlétique qui traversait le jardin. Il ne peut pas dire s'il s'agissait d'Oji. L'ancien mari est arrêté. On lui passe brièvement les menottes. 32 minutes d'interrogatoire, des réponses vagues. Il est libéré. 3 jours plus tard, il assiste aux funérailles de Nicole. Avec leurs 2 enfants, il pleure à chaudes larmes. Ron Goldman est enterré le même jour dans un autre cimetière. O.J. Simpson libéré peut-être, mais qui est bien loin d'en avoir fini avec la justice. Il se doute qu'il peut désormais être arrêté à tout moment et être mis en accusation. Ce sera chose faite 4 jours après les obsèques à l'issue d'une hallucinante course-poursuite dans les rues de Los Angeles. On va en parler évidemment de ces rebondissements dans la suite de l'heure du crime. Il faut revenir au début de l'affaire. Et le début, c'est dans une histoire de crime. Eh bien, c'est toujours la scène de crime. Bonjour Jérôme Godefroy.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Alors, Jérôme Godefroy, nos auditeurs connaissent bien votre voix sur RTL. Vous êtes journaliste, évidemment, et vous avez été notre correspondant aux États-Unis entre 1989 et 2001. Cette affaire O.J. Simpson, vous la connaissez par cœur parce que vous l'avez suivie et elle vous avait sans doute fait passer quelques nuits blanches. Alors, il y a cette scène de crime, Jérôme, on en parle à l'instant, qui frappe toutes les imaginations parce qu'on est dans un quartier tranquille et sélect, à Brentwood. Il se passe pas grand-chose dans ce quartier. Et puis, la personnalité des victimes, elle attire tout de suite l'attention.
Alors, si vous voulez, pour moi, correspondant de RTL aux États-Unis, O.J. Simpson, ça ne me disait pas grand-chose à ce moment-là, mais j'ai compris assez vite que c'était une immense vedette, un ancien sportif, un petit peu comme on parle aujourd'hui de Michel Platini ou de Yannick Noah, qui ensuite ont poursuivi des carrières différentes. Et donc, sur le coup, au moment de la découverte des 2 corps, ce sont les médias locaux, californiens à Los Angeles, qui y vont. Il y a déjà beaucoup de monde parce que O.J. Simpson est une star. C'est quelqu'un qui est très connu, qui a une très bonne réputation, très sympathique. C'est un homme. D'ailleurs, il a un physique, il a un sourire éclatant. Et il est très populaire. Il a fait du cinéma, il a fait de la pub, il a tourné dans des séries télévisées. Oui, il a été commentateur de football.
Tout à fait.
Donc c'est quelqu'un. C'est la personnalité d'O.J. qui attire les médias, mais à ce moment-là, on n'imagine pas que c'est lui le coupable.
Oui, mais c'est juste un mot, Jérôme. Cette scène de crime, elle frappe les imaginations parce qu'elle est d'une violence inouïe aussi, avec tous ces coups de couteau et ce sang partout.
Oui, alors il y a Brentwood, vous le disiez, c'est un endroit extrêmement paisible, très chic. C'est un peu Beverly Hills. C'est un quartier de blancs, essentiellement. Et O.J., qui avait vécu dans cette maison avant de divorcer de Nicole, était accepté parce que O.J., la race à ce moment-là n'avait pas d'importance. O.J. disait je ne suis pas noir, je suis O.J. Simpson. Et à ce moment-là, ça dit tout du personnage qui était totalement intégré et qui était aimé aussi bien par les Noirs que par les Blancs.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Merci vous aussi d'être aujourd'hui avec nous dans cette heure du crime. Vous êtes dans le studio RTL de l'heure du crime, historienne et politologue spécialiste des États-Unis. Votre dernier livre, la plus résistante de toutes qui a été publiée aux éditions Stock. Alors, Jérôme Godefroy vient de nous faire un petit portrait d'O.J. Simpson, qui est une star immense, cet ancien footballeur qui a basculé dans le monde des médias, dans le cinéma, la télé. C'est une célébrité. Il y a ce couple qu'il formait avec Nicole. Ça se passait pas très bien. C'est un homme violent qui est apparu à un moment donné.
Oui, c'est un homme violent. Nicole Brown, au moment de son assassinat, avait 35 ans. Et c'était une très très belle fille. Vous savez, belle à la manière californienne. Grande, fine,
blonde.
Un beau visage, blonde, cheveux longs. Vraiment une femme très très belle. Mais c'est vrai que pendant ces 7 ans de mariage avec O.J. Simpson, la naissance de 2 enfants, elle avait à pas mal de reprises appelé à l'aide, appelé les secours, appelé la police. Et il y a des enregistrements faits par la police où on entend O.J. Simpson qui tape comme un forcené derrière une porte en la menaçant des pires choses et elle qui appelle au secours. Il y a eu dans les tabloïds de l'époque des photos de Nicole au poste avec le visage tuméfié, les yeux au beurre noir, des bleus partout. Donc on sait que dans sa vie privée, il était violent.
Il était violent. Alors ça change tout d'ailleurs, ça change la donne parce qu'évidemment les policiers ils vont se poser la question de savoir que cet homme qui était là ou pas là ce soir-là, déjà l'emploi du temps il est assez flou.
Il manque un grand morceau entre le moment où il a un copain avec qui il a dîné chez lui et le moment où il est à l'aéroport pour partir à Chicago, il y a eu largement le temps d'être effectivement l'assassin de Nicole Brown et de Ron Goldman. C'est entre la présence de sang et cette disparition d'une heure et demie environ, il y a évidemment tous les soupçons se tournent vers lui.
Et ça pose beaucoup de questions. Jérôme Godefroy, lorsqu'on commence à comprendre que peut-être il est impliqué dans ce double crime épouvantable, je suppose que là, les médias s'affolent et qu'aux États-Unis, le premier d'ailleurs, on vous sonne de partout.
Alors, si vous voulez, pour être très honnête par rapport à la manière dont l'Europe a réagi à cette affaire, c'est venu très lentement, parce que O.J. n'était pas quelqu'un de très connu.
Oui, c'est du football américain, etc.
Et donc, si vous voulez, pour moi, pour RTL, j'ai fait quelques histoires sur le crime, le premier crime, mais surtout ce qui a lancé l'affaire, c'est la course-poursuite dont on va parler, j'imagine, juste après.
Dont on va parler, bien sûr, mais simplement... On peut dire qu'il y a une espèce d'affolement parce qu'il y a ces deux victimes, je l'ai dit, Nicole, qui est l'ancienne épouse, et puis il y a ce serveur de restaurant. Et là, on va se poser des questions. On va se dire peut-être que O.J. a cru qu'elle était avec son amant, non ?
Alors, c'était pas son amant.
Bien sûr, c'était pas son amant, mais il peut y avoir une confusion.
Il y avait chez O.J. une espèce de rancœur. Et pendant le mariage, il était extrêmement violent, il était d'une jalousie terrible. Un jour, il a pris une batte de baseball et il a fracassé toutes les vitres de sa Mercedes. Enfin, c'était un homme violent et qui correspondait pas du tout à l'image sympa de l'ancien sportif reconverti dans les médias.
Le mari suspect va être arrêté et se retrouver dans la peau de l'accusé. Vendredi 17 juin 1994, 9h du matin, O.J. Simpson est dans la villa de l'un de ses avocats, Robert Kardashian. Il a accepté de se présenter à la police à 11h pour être interrogé et mis en accusation, mais il traîne des pieds. Les heures s'égrènent, O.J. Simpson disparaît. En milieu d'après-midi, la police part à sa recherche. Il est introuvable. À 17h, l'avocat Kardashian lit une lettre de son client. « J'ai eu une belle vie, de bons amis. » « Souvenez-vous du vrai O.J. et pas de cette personne perdue », écrit le fugitif, comme s'il s'agissait d'un testament. Simpson finit par être repéré à bord d'un SUV blanc conduit par un ami d'enfance. La voiture est rapidement filmée par les hélicoptères de la police. Et toutes les chaînes de télé et des milliers d'Américains suivent la course-poursuite en direct pendant 2 heures. Le véhicule se dirige vers le cimetière où repose Nicole, périmètre cerné par les forces de l'ordre. O.J. Simpson tient un revolver qu'il pose parfois sur sa tempe. La course-poursuite redémarre dans les rues de Los Angeles, le fuyard rentrant enfin chez lui. Il reste prostré 45 minutes dans le véhicule. Il en sort à 20h53, l'air hagard, épuisé. Il murmure des excuses. Dans la soirée, il est écroué à la prison du comté. Lundi 20 juin, O.J. Simpson plaide non coupable. Non coupable à 100%, va-t-il répéter. Lors de ses audiences préliminaires, il apparaît en chemise blanche, le col largement ouvert. Il paraît évoluer dans une sorte de semi-brouillard, prenant parfois quelques notes sur un cahier. Les larmes aux yeux lorsque les noms de ses enfants sont prononcés, les familles Brown et Goldman le dévisagent. Les trois sœurs de Nicole portent à leur boutonnière un petit ange doré, identique à celui que portait la victime. Le suspect dispose de la plus brillante équipe d'avocats jamais constituée. Des spécialistes hors de prix de la défense de célébrités, Robert Shapiro, Johnny Cochran, Lee Bailey, Robert Kardashian. Pendant des jours, il dénonce une accusation qui s'appuie sur une enquête truquée. Le deuxième gant retrouvé aurait pu être déposé volontairement chez Simpson pour l'accabler. Les traces ADN sont contestées, mais l'accusation tient bon. O.J. Simpson doit être jugé. Il risque la peine de mort. Mardi 24 janvier 1995, le procès d'O.J. Simpson, 47 ans, s'ouvre devant la Cour supérieure de justice de Californie. Les procureurs sont persuadés que la partie est gagnée d'avance, tant les preuves sont accablantes. L'accusé n'a jamais pu expliquer clairement ce qu'il faisait et où il était à l'heure du crime le 12 juin 1994 en fin de soirée. Il y a un trou de 78 minutes dans son emploi du temps. Les avocats réfutent cette affirmation. Ils indiquent qu'à 21h40, leur client était avec son ami acteur qui logeait chez lui. Il n'aurait jamais eu le temps d'aller tuer Nicole, revenir chez lui pour ouvrir la porte au chauffeur et réussir à prendre l'avion de minuit. Pour les procureurs, le mobile est évident. Il a tué par jalousie. Il a tué parce qu'il ne pouvait plus posséder Nicole, assure-t-il. Il souligne que l'ex-épouse a subi pendant des années les violences de O.J. Son pré-contrat de mariage prévoyait qu'elle ne travaille pas. Il lui avait cassé un bras dans une bagarre. 62 incidents violents répertoriés dans la vie du couple. 8 signalés à la police. La nuit du 1er janvier 89, Nicole avait été trouvée couverte de bleu et de sang dans le jardin de la maison. « Il veut me tuer », avait-elle dit au secours. O.J. Simpson avait écopé de $500 d'amende. Procès un grand spectacle, mais qui ne fait que commencer. L'accusation marque des points à une vitesse stupéfiante et on ne sait pas comment O.J. Simpson va pouvoir tout simplement sortir de ce guépier. Tout est contre lui, le sang, l'emploi du temps, ses rapports ultra-violents avec son épouse. Et puis, cette fuite, avant le rendez-vous à la police, cette cavale en direct dans Los Angeles. Jérôme Godefroy, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste et correspondant à RTL aux États-Unis entre 1989 et 2001. Alors cette poursuite à travers les rues de Los Angeles, ben vous y avez assisté comme des milliers de téléspectateurs. On a l'impression qu'il signe un peu son crime, O.J. Simpson, avec cette cavale.
Ah, c'était un spectacle extraordinaire. Il faut savoir que c'est une grande tradition locale à Los Angeles. Les télévisions locales font appel à des hélicoptères qui envoient des images dès qu'il y a une course-poursuite. C'est un grand classique à Los Angeles, mais ça ne dépasse pas la ville. Et là, c'était O.J. Simpson. C'était O.J. Simpson dans la voiture qui était signalé, qui avait téléphoné en disant « Je suis dans la voiture, conduite par mon ami Collins, qui est un autre joueur de football à la retraite. » Et O.J. menace de se suicider.
Ouais, c'est ça.
Et la course poursuite est extrêmement lente. Hein. Ça dure à peu près 2 heures. Toutes les autoroutes sont dégagées et on voit cette voiture poursuivie à distance respectable, mais qui roule très lentement. En 2 heures, ils font à peu près 90 kilomètres.
Ah oui, d'accord.
C'est pas énorme.
Ouais,
ouais. Et alors c'est là que le spectacle frappe l'Amérique parce que on est un vendredi soir. Il est 18h 19h sur la côte ouest, mais il est 21h 22h sur la côte est. À ce moment-là, il y a une retransmission d'un match de basket américain de NBA. C'est les finales, c'est un match très important. Il est interrompu et toutes les chaînes se mettent à diffuser la poursuite. Et on est vendredi soir, c'est le film de la soirée en direct. Et c'est ça qui démarre vraiment pour l'opinion publique l'affaire Simpson, sachant que il y a Nicole en parlera sûrement, il y a de la part des Noirs américains à propos de la police de Los Angeles beaucoup de méfiance et même de haine parce que la police de Los Angeles est soupçonnée d'avoir été raciste à plusieurs reprises et donc là c'est des policiers blancs qui poursuivent deux Noirs dans une voiture et il y a un vrai suspense qui se clôturera comme vous l'avez dit par le retour
par la reddition,
d'O.J. chez lui.
Oui, par la reddition dans cette maison où il va rester prostré dans sa voiture. Ça aussi, les images, elles vont tourner avec cet homme prostré dans la voiture.
Ah oui, non, mais c'est un truc extraordinaire.
C'est incroyable, et vous avez raison de le dire, Jérôme Godefroy, ça signe finalement l'entrée en scène d'O.J. Simpson juste avant ce procès qui va être spectaculaire, mais là, on a vraiment un avant-procès, en quelque sorte. Nicole Bacharan, qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans cette poursuite?
Ah oui, moi, je l'ai vécu exactement comme Jérôme vient de le décrire. Je vivais à Houston, au Texas, à ce moment-là, et c'est vrai que ces images prises par hélicoptère par la police de Los Angeles, elles étaient diffusées en direct nationalement et vous ne pouviez pas brancher une chaîne sans voir cette Bronco, cette voiture sur des autoroutes quasiment
quasi déserte,
vide et qui roulait très lentement avec un double suspense. O.J. va-t-il ou non se suicider et est-il vraiment le coupable de ce crime épouvantable? Et outre cette poursuite de la voiture, je me souviens mais de manière très très claire de cette fameuse lettre que vous avez mentionnée, qu'il a confiée
qui est lue par l'avocat.
Voilà, à son avocat, mais qui a été publiée également dans les journaux immédiatement. Donc voilà, j'espère qu'on se souviendra de moi comme du vrai O.J., etc. Mais surtout, il y avait une phrase avec mes copines à l'époque, on se téléphonait en disant « c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué », parce qu'il y avait cette phrase qui était « Nicole et moi n'avons, Nicole Brown évidemment, n'avons jamais eu aucun problème entre nous, le seul problème c'est que je l'aimais trop ». Et ça, c'était terrifiant.
Et oui, parce que ça, quand on dit « j'aime trop », on peut aller à l'extrême. Et souvent, c'est effectivement une phrase qui revient lors des féminicides. Effectivement,
exactement, ça revient. La folle jalousie.
Tout à fait. Jérôme Godefroy, juste un petit mot. Lorsque ce procès s'ouvre, on a l'impression que les jeux sont faits, parce qu'il y a, il y a beaucoup de preuves contre lui.
Alors, les jeux sont faits, mais les préliminaires ont été extrêmement longs, parce que déjà, le choix des jurés, la défense voulait effectivement avoir beaucoup de jurés noirs, ce qu'ils ont obtenu, et puis l'autorisation ou non de téléviser, le juge Ito a finalement accepté que ce soit télévisé. Enfin, il y a eu toute une préparation, mais effectivement, il y avait un vrai suspense, et comme scène d'introduction massive sur les médias, la course poursuite a été une bande annonce extraordinaire.
Tout
le procès
fait.
Était extrêmement attendu.
Ouais, c'est ça. Nicole Bacharan, effectivement, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de choses qui sont contre O.J. Simpson. Il y a cette trace de sang, il a laissé ses empreintes partout, ces histoires de gants. On va y revenir dans le détail, mais on a l'impression qu'il est fait aux pattes, comme on dit.
Ben exactement. Entre les avertissements donnés par la victime quelque temps auparavant, les actes de violence enregistrés par la police, cette fuite extrêmement étrange, cette lettre testament et le sang des trois protagonistes, O.J., l'assassin, Ron Goldman et Nicole Brown, du sang qui se trouve sur les chaussettes d'O.J. Simpson, sur ses chaussures, sur ses gants,
ça fait beaucoup.
Dans sa voiture, sachant que les tests ADN qui ont été faits par deux labos différents disent que la possibilité de se tromper sur l'identité d'une de ces taches de sang, c'est de 1 sur 20 milliards.
Ouais,
donc on se dit, bon ben voilà, c'est plié.
Les jeux sont faits, comme on dit, mais en voilà. Tout cas, bon ben, il a une belle équipe d'avocats et ils vont se battre vraiment avec ardeur, ces avocats prestigieux. Procès qui continue, un accusé accablé, mais l'enquête aurait-elle été truquée ?
Nous, le jury, déclarons l'accusé Orenthal James Simpson non coupable de meurtre sur Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman.
Lundi 13 mars 1995, 6 mois après l'ouverture du procès, l'un des prestigieux avocats d'O.J. Simpson, Lee Bailey, mène le contre-interrogatoire du policier Mark Fuhrman. Ce dernier a un profil controversé. En 1981, il a demandé à quitter la police car il ne se sentait plus apte à exercer. En 1988, il a été accusé de racisme. Le clan O.J. Simpson le fait clairement apparaître comme un blanc raciste qui voulait la peau d'un noir. La défense laisse entendre qu'il a pu déposer intentionnellement le deuxième gant dans le jardin d'O.J. Fuhrman dément toutes ces accusations. Il affirme qu'il n'a jamais été raciste. Sous serment, vous indiquez n'avoir jamais prononcé le mot nigger, nègre, ces 10 dernières années, demande Lee Bailey. C'est exact, dit le policier qui ajoute que ceux qui disent le contraire sont des menteurs. 5 mois plus tard, 29 août, les avocats font écouter à la cour un enregistrement audio de Mark Fuhrman. Il y prononce le mot nigger, nègre, à 41 reprises. Le 6 septembre, le policier est convoqué à la barre, mais il refuse de répondre aux questions. Il invoque le 5e amendement. Les procureurs craignent alors que le procès leur échappe. Les avocats d'O.J. Simpson continuent leur offensive. Ils dressent la liste des erreurs relevées sur la scène de crime. Des corps enlevés trop tard. Un échantillon de sang de Simpson conservé dans la poche d'un policier une journée entière avant d'être analysé. Un van non réfrigéré. Des chaussures du suspect qu'un enquêteur a amené chez lui, etc. etc. Devant les caméras, O.J. enfile le gant gauche de taille XL retrouvé sur la pelouse. Entre les corps des deux victimes, il s'efforce à glisser sa main à l'intérieur. Mais n'y parvient pas. S'il ne rentre pas, c'est qu'il doit être acquitté, indique l'un de ses avocats. L'accusation martèle que l'ADN d'O.J. Simpson est présent sur la scène de crime, que ses cheveux ont été retrouvés sur le serveur de restaurant. Un tableau complet, un graphique de toutes les preuves retenues contre l'accusé et présentées aux jurés. Mais plus rien n'y fait. 3 octobre 1995, Simpson est acquitté après un délibéré de moins de 4 heures. 150 millions de personnes dans le monde ont suivi le verdict à la télé. Et tout le monde disait qu'O.J. Simpson était forcément coupable et qu'il serait condamné et lourdement condamné. Jérôme Godefroy, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste et vous étiez notre correspondant à RTL aux États-Unis entre 1989 et 2001. Cet acquittement, c'est un coup de tonnerre. Qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme, pour expliquer ce retournement de situation ?
Le procès a été extrêmement chaotique. D'abord, il faut bien savoir, c'est une grande différence avec le système français. Le procès était interminable, il a duré 9 mois, tous les jours, pendant des heures. Donc, c'est parce que la justice américaine, on fait l'instruction pendant
tout
les audiences. Il n'y a pas vraiment d'instruction avant le procès. Donc, on a entendu quand même 56 témoins, mais pas pendant 5 minutes. C'était des heures et des heures d'interrogatoire, de contre-interrogatoire. Donc le procès a été compliqué, confus. Il y a eu effectivement, de la part de la défense, l'attaque contre le policier Furban, qui est effectivement un raciste et qui
a menti
et qui a été convaincu de parjure parce qu'il avait juré qu'il n'avait pas dit le mot nigger, qui veut dire nègre, qui est un mot extrêmement péjoratif, alors qu'il l'avait dit. Les enregistrements étaient là pour le prouver. Donc, alors le procès était chaotique. Le juge Ito était un personnage un petit peu débonnaire. Il y avait une procureure très 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 accrocheuse. Et puis surtout, il y avait des avocats extraordinaires.
Bien
parce
sûr.
Que O.J. Simpson, il avait de l'argent. Donc il s'est payé les meilleurs avocats et notamment Johnny Cochran, qui était un avocat extraordinaire, avec un physique de cinéma, avec une voix extraordinaire. Et vous avez cité la réplique du tournant de ce procès. C'est, je le dis en anglais, « If it doesn't fit, you must quit ». Si ce gant-là ne rentre pas, n'est pas à la bonne taille, vous devez acquitter. Et ça, c'est la phrase choc. Ça a été extraordinaire. Et puis, la dimension raciale, elle est très, 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 très présente. Il faut se souvenir qu'à l'époque, par exemple, la une de Time Magazine avait présenté à O.J. Simpson, c'était une photo de O.J. Simpson qui avait été truquée et on l'avait accentuée. La noirceur de son visage.
D'accord.
Oui, donc à quel point on en était là-dedans.
Et, effectivement. Et vous avez raison de citer cette phrase en anglais parce que d'abord elle rime et on comprend bien qu'effectivement si ce gant il ne s'enfile pas sur cette main, ben c'est pas lui, c'est sûrement un autre, Nicole Bacharan. Il y a la piste du racisme, on l'a évoqué avec Jérôme Godefroy, elle va être toujours en filigrane de ce procès.
C'est vraiment ce qui a sauvé la tête de O.J. Simpson. Vous avez mentionné l'enregistrement du policier Furman. Mark Furman, où effectivement il emploie le mot « nègre » 40 fois, mais il ne dit pas que ça. Il dit des choses épouvantables. Il dit « tous ces nègres, je les aurais, on n'a qu'à les mettre en tas et les brûler.
Ah »
On a retrouvé chez lui des insignes nazis. Enfin, c'était vraiment énorme.
Et là, ça bascule.
Ça bascule grâce à, effectivement à l'avocat que citait Johnny Cochran. Parce que la question qui est posée au juré, à la fin, c'est « Pensez-vous, au-delà de tout doute raisonnable, qu'O.J. Simpson est coupable de meurtre ?» Et Cochran s'est débrouillé pour que la véritable question en filigrane soit « Pensez-vous que la police de Los Angeles soit corrompue et raciste et capable de vouloir piéger un noir ?» Et c'est là-dessus que les jurés se sont prononcés et ont acquitté O.J. Simpson. Il suffit qu'il y en ait un qui vote l'acquittement pour qu'il soit acquitté, hein, la peine de mort, c'est 12 jurés. Sinon, ça ne passe pas. Donc, c'est la question raciale qui a fait basculer le procès.
Oui, au point qu'on en a oublié les preuves, effectivement, et les indices.
Preuves écrasantes.
Tout ça a été balayé par, effectivement, cette question, ces mensonges et ces imprécisions de la part de l'accusation. L'ancien footballeur revient de loin, même si la justice va longtemps lui emboîter le pas. Vendredi 22 novembre 1996, un an après l'acquittement, O.J. Simpson est devant le tribunal civil de Santa Monica. Procès bien moins spectaculaire que le premier, mais au cours duquel les familles des deux victimes, Nicole Brown, Ron Goldman, espèrent bien démontrer sa culpabilité. O.J. Simpson, qui ne risque qu'une condamnation financière, dément s'en être pris aux victimes. On l'accuse d'avoir été un mari violent. On présente des photos de Nicole, visage tuméfié, mais il assure n'avoir jamais levé la main sur elle. Les proches des victimes viennent témoigner, le plus souvent en larmes, comme la mère de Nicole Brown qui se souvient avoir vu sa fille la veille de la tragédie. « Vous ne pouvez pas savoir comment elle était belle », dit-elle. 4 décembre 1997, après 3 mois d'audience, O.J. Simpson est déclaré responsable de la mort de Nicole Brown et Ron Goldman. Il reste néanmoins libre, condamné à 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts qu'il ne paiera jamais. 13 septembre 2007, 13 ans après l'affaire, O.J. Simpson est arrêté. Il est cette fois accusé d'avoir, en compagnie de malfrats, braqué un marchand de trophées sportifs et d'autographes de célébrités de Las Vegas. Voulait-il récupérer quelques-uns de ces trophées confisqués par le tribunal civil et revendus pour payer une partie de sa dette ? Le vol à main armée est considéré comme très violent par la police, il aurait pu causer des victimes. L'ancien footballeur est condamné à 33 ans de prison, il sera libéré par anticipation le 20 juillet 2017. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités en direct et au téléphone de l'heure du crime. C'est Jérôme Godefroy, qui a été notre correspondant RTL aux États-Unis entre 1989 et 2001 et qui connaît parfaitement ce dossier. Jérôme, une petite question, vous qui connaissez aussi bien le droit français que le droit américain. Ouais. Question, pourquoi il n'y a pas eu d'appel après l'acquittement de Simpson ?
Parce que les avocats de Simpson n'avaient absolument pas intérêt à faire appel, et les autres sentaient que le climat était un peu difficile pour eux. Parce que il y a eu quand même aussi un moment de l'énoncé du verdict à travers les États-Unis. Je me souviens, à New York, à Times Square, il y a eu une petite manif de Noirs américains qui ont applaudi. C'est l'acquittement de Simpson. Il faut aussi remettre, je voulais évoquer une autre affaire qui est dans le contexte de celle-ci, c'est l'affaire Rodney King.
Tout à fait,
quelques années.
Un mot là-dessus, oui.
Oui, parce que Rodney King, c'était un black américain, un pauvre type qui se fait arrêter pour un excès de vitesse par des policiers de Los Angeles, et il se fait tabasser par des policiers blancs. La seule chose, c'est que cette scène a été filmée par une caméra vidéo. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Hein. Mmh. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de ces choses-là. Mais les images existent et on voit Rodney King se faire méchamment tabasser. Mmh. Les policiers sont acquittés et là, ce sont les émeutes de Los Angeles en mai 92 qui ont fait une cinquantaine de morts. Faut pas oublier ça. On est dans ce contexte-là. Et si vous voulez, l'affaire Simpson, elle est aussi là-dedans. Elle est dans le côté police de Los Angeles, raciste et méchante avec les Noirs. Donc c'est un peu le match retour.
Quoi. Et c'est ça. Et donc, on ne prend pas de risque à vouloir un procès en appel, parce que ça peut mettre le feu. On préfère calmer tout ça, finalement. On met tout ça sous le tapis. Alors, il y a Nicole Bacharan, vous êtes également notre invitée dans le studio de l'heure du crime. Il y a ce procès en appel. Alors, on n'a pas habitué ça en France, parce que les procès au civil aux États-Unis, on peut dire que la personne, finalement, est coupable, même si elle a été acquittée auparavant au pénal. Bon, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et à ce procès, Simpson, il est vraiment alors en roue libre, j'ai l'impression.
Ah, mais complètement. Alors, c'est vrai que la différence, au pénal, on risque la prison, voire la peine de mort. Au civil, on risque effectivement une amende, des dommages et intérêts. On est dans un aspect purement financier. Mais là, O.J. Simpson, d'une certaine manière, sait qu'il ne risque plus rien. Donc il n'a aucune limite. Il nie tout, il se moque même des accusations portées contre lui. Ah ah, si je l'avais fait, j'aurais pas fait comme ça. Enfin, c'est incroyable. Mais il est condamné, 33 millions à cette époque-là, puisque ça remonte quand même à presque 30 ans. C'est beaucoup, beaucoup c'est d'argent. Ouais. Il va se débrouiller pour déclarer faillite et ne jamais rien payer.
Et il va se réfugier en Floride d'ailleurs, parce qu'il est sûr là-bas que le droit lui permet de ne pas être rejoint, c'est ça?
Exactement, hein, et l'aspect racial et raciste que mentionnait Jérôme, au moment de l'acquittement, c'est crucial. Vous avez 75% des Blancs qui pensent que O.J. est coupable, 75% des Noirs qui disent non, il n'est pas coupable. Mais en fait, ils disent ce que Jérôme a dit, pour une fois que c'est l'un des nôtres qui survit au système judiciaire qui d'habitude est quand même à bien des moments franchement raciste, c'est toujours ça de prix. Or O.J. n'a pas été acquitté parce qu'il était noir, il a été acquitté parce qu'il était riche.
Jérôme Godefroy, juste un petit mot. Il y a ce procès un peu minable avec cette histoire de vol de trophée. Il prend quand même 33 ans de prison. Il ne les fera pas à tous, évidemment, mais là, il y a une petite revanche aussi de la justice à ce moment-là. On se dit, après tout, il faut qu'il paye.
Oui, c'est le système américain qui est extrêmement compliqué. On arrive toujours à poursuivre, malgré tout. Mais c'est une revanche, mais qui, comme vous le disiez tout à l'heure, a pas eu beaucoup de retentissement, non. Puisqu'on avait tourné la page d'O.J. Et les gens étaient convaincus de part et d'autre, chez les Noirs et chez les Blancs, de sa culpabilité ou de sa non-culpabilité.
La star déchue va finalement se faire oublier, puis disparaître définitivement. Mercredi 10 avril 2024, O.J. Simpson, 74 ans, atteint d'un cancer de la prostate, décède chez lui, à Las Vegas. Il avait fréquemment raconté et vendu son histoire. Dans un livre intitulé « Si je l'avais fait », il racontait qu'il ne pouvait pas être le meurtrier, car pour commettre de tels crimes, disait-il, il ne s'y serait jamais pris de cette façon. L'affaire Nicole Brown, Ron Goldman, jamais résolue, est toujours considéré comme un cold case par la police de Los Angeles.
La seule chose qui comptait pour nous, c'était qu'il soit condamné. Mais il a continué à vivre sa vie pendant toutes ces années. Ronald, lui, n'a pas eu cette chance.
La voix de Frédéric Goldman, le père de Ronald Goldman, c'était sur ABC News en 2019. Il était content qu'effectivement la justice soit enfin passée au civil et qu'ils aient eu cette compensation entre guillemets après l'acquittement de O.J. Simpson devant la justice pénale. Nicole Bacharan, vous êtes notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, historienne, politologue, spécialiste des États-Unis. Je recite votre dernier livre, La plus résistante de toutes, publié chez Stock. Nicole Bacharan, si je l'avais fait. C'est le titre de son livre. C'est étonnant. Est-ce qu'il est jusqu'au bout, il va dire, ben, après tout, c'est pas moi, mais avec cette mise en scène autour du crime.
Oui, parce que ce livre, si je l'avais fait, c'est une tentative pour gagner de l'argent, rien d'autre. Et parce qu'effectivement, il a été ruiné. Mais en expliquant que s'il l'avait fait, en gros, il s'y serait beaucoup mieux pris que cet inconnu dont il fait croire qu'il aurait pu exister et qui a tué de cette façon.
Et qu'on n'a jamais retrouvé.
Il
n'y a eu aucun autre suspect.
Hein, évidemment, il n'y en avait pas d'autres et il n'y en aura pas d'autres. Mais en même temps, ce livre, non seulement c'est une tentative de gagner de l'argent, mais c'est un petit travail épouvantable, parce qu'il se moque vraiment. Il se moque de la mémoire de ses deux victimes, il se moque de ses familles qui sont définitivement endeuillées. Il est d'un cynisme sans limite, parce que c'est un homme très violent, qui a tué deux personnes dans un état de rage indescriptible, avec cette scène de crime que vous avez décrite, mais c'est aussi un homme d'un cynisme sans fond.
Et d'ailleurs, les réactions à sa mort, elles ne seront pas toujours flatteuses. On en a vu quelques-unes. Il y a peu de monde qui a dit...
Plus personne ne le défend. C'est vrai qu'il y a une satisfaction dans la communauté noire vis-à-vis de la justice, mais aujourd'hui, dans la même communauté noire, il y a très très peu de personnes pour dire O.J. était innocent. Tout le monde lui a tourné le dos.
Jérôme Godefroy, vous êtes notre autre invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Et on est très heureux de vous entendre sur RTL. Vous avez été notre correspondant aux États-Unis entre 1989 et 2001. Qu'est-ce qu'elle raconte, en quelques mots, Jérôme, cette affaire O.J. Simpson sur l'Amérique? Est-ce que c'est un miroir de l'Amérique, cette histoire?
Ah, c'est un des faits divers les plus marquants, si vous voulez. Moi, pour mes années américaines, il y a eu ça. Mais avant, il y avait eu l'homme sur la lune, il y a O.J. Simpson, il y a le 11 septembre. Enfin, c'est toute cette dimension-là, hein. Et c'est aussi le prélude à d'autres affaires. Je parlais de l'affaire Rodney King qui est antérieure, mais il y a eu l'affaire de George Lloyd à Minneapolis qui a déclenché le mouvement Black Lives Matter. Mais si vous voulez, la dimension raciale, elle est complètement fabriquée, et ça, c'est le coup de génie des avocats
de l'équipe
pendant
d'avocats.
Le premier procès. Et parce que j'ai retrouvé une citation de Mohamed Ali, qui était très politisé, hein, le boxeur, Cassius Clay Mohamed Ali, qui avait beaucoup de mépris pour O.J. Simpson et qu'il considérait comme un sportif contre les révolutionnaires, parce que O.J. n'a jamais été un militant de la cause noire. Il était très intégré et il s'en vantait d'être proche des blancs, et la couleur de sa peau n'avait pas d'importance. Et comme le disait Nicole, ce qui comptait beaucoup pour O.J. c'était l'argent. Et effectivement, ce livre, si je l'avais fait, et d'ailleurs il y a une chose amusante, c'est que dans la version en anglais, c'est « if I did it », et le « if » sur la couverture était à peine lisible, et on pouvait simplement dire « I did it », je l'ai fait.
Ah oui, c'est un très beau coup commercial, effectivement. Là,
L'éditeur a eu un coup de génie, mais effectivement, c'est un personnage qui était flamboyant, aimé, sympathique, intégré, et qui d'un seul coup fait un crime horrible et devient un minable, parce que c'était un minable à la fin, et c'est pas du tout un étendard pour la cause noire.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on a dit avec Nicole Bacharan. Nicole Bacharan, je termine cette émission avec vous. On dit toujours procès du siècle, c'est un beau cliché entre nous, puisque tous les procès semblent être des procès du siècle, mais là, effectivement, c'est un procès impossible à oublier.
Oui, surtout comme c'était en 95, on peut dire que c'était procès du 20e siècle. Oui. Et puis, ça a été le premier grand procès télévisé pendant 9 mois, 95 millions de téléspectateurs pratiquement tous les jours, avec des enjeux incroyables, évidemment, le sexe, la richesse, la célébrité et la question raciale. Donc, si ce n'est le procès du siècle, c'est un des très, très grands procès marquants.
Merci infiniment Nicole Bacharan et Jérôme Godefroy d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignon, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet, et félicitations à notre autre réalisateur Jonathan Griveaux pour la naissance de son petit Noé.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.